Les voies de service, mercredi 1er août 2018. Bon, je ne t'ai pas vu et entendu, mais je suis de retour pour l'instant, tant que ma santé le permet. Merci beaucoup d'avoir tenu le fort pendant mon absence. Vous étiez très intéressant à écouter. Vous avez des belles voix.
Merci.
Aujourd'hui, je vais vous donner un petit cours de prononciation de Micmac, qui est probablement que je ne l'ai pas prononcé comme il faut, mais en tout cas, en autant que faire se peut. Et je vais aussi vous parler de la relation entre les Innus et la Sainte-Anne. La fête de la Sainte-Anne, que nous, évidemment, incultes, impies, québécois de souche, on ne fête plus. Non, il y en a encore que la fête, là, mais ouais, apparemment que chez les Innus, c'est très fort. En musique, Daniel, vous allez nous amener où?
Dans la première partie, je vais vous lire un article que j'ai trouvé dans la presse. C'est un musicien qui fait un peu allusion à toutes les tendances qu'on entend dernièrement d'appropriation culturelle. Et tout ça, donne son opinion
là-dessus.
On peut
pas y échapper.
Et en deuxième partie, je vais vous parler de deux grandes super vedettes assez âgées, disons. J'ai des nouvelles sur eux.
Oh, encore, on parle encore d'agisme en musique.
Oui.
C'est dans l'air du temps. Et je précise que vous appelez Daniel Lachance au complet,
aussi.
Puisque je ne nous ai pas présenté
encore,
ce matin. Et de votre côté, Serge Bradet, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, j'ai un article qui, on sera et dans l'histoire et dans le futur. L'intelligence artificielle peut-elle faire disparaître l'humanité?
Oh boy!
Un bon article, oui. Et ensuite...
On espère que non.
Oui, non.
En tout cas, moi, là, vous, mais...
tout le monde, pas mal. Oui. Ensuite, Guernica, 1937, Picasso devient un artiste engagé.
Ah, oui.
Et puis, si on a du temps, ça vient d'où, là, dans les... la marque Maybelline, la Ratatouille, la voiture électrique, l'expression faire un laïus.
On
a du temps, oui.
Pour qu'il y ait du temps. Je m'appelle Isabelle Falardeau et je vous reparle dans quelques secondes. Et c'est commencé. On commence tout de suite avec la vieillesse ou avec l'appropriation culturelle?
Oui, c'est parce que je trouve qu'il y a tellement de choses qui ont été dites récemment là-dessus.
Non, c'est vrai.
Je trouvais ça intéressant, cet article-là, qui est paru dans l'édition du 28 juillet de La Presse Plus. Le titre, c'est « Je m'approprie le blues ».
Ah oui, c'est vrai.
« Je joue du blues dans les bars depuis 25 ans. Le cachet... 100$ par musicien, est figé comme le répertoire. Ce qu'on comprend, c'est que depuis 25 ans, il
gagne. Fait pas ça pour l'argent, là. C'est vraiment l'amour du blues.
Et c'est très, très proche de la réalité, ça. Il est afro-américain, il parle du blues ici, il parle pas de lui-même.
Oui, OK.
Il est afro-américain, je me l'approprie. Pas de doute, je suis un white boy. C'est le sobriquet que m'ont donné les blacks avec qui j'ai joué à Chicago. « Hey, white boy, you got the blues, come back anytime. » Un adoubement que je chéris
belle,
encore.
Oui, un beau compliment.
Oui, c'est un compliment. Car le blues n'est pas fortuitement noir, il l'est absolument. Les intervalles qui en donnent le sel, la carte augmentée, ça, là, il parle un peu technique musicale.
Oui, on comprend
là,
rien, mais c'est pas grave. On comprend que c'est vrai, on fait confiance.
On comprend que c'est ce qui donne la couleur au blues.
Oui, voilà.
L'entre-deux tierces, les quarts de ton ont une origine. Les instruments africains ne sont pas tempérés comme les instruments occidentaux depuis Bach. Ça, juste une petite parenthèse ici, c'est que dans le fond, quand Bach a commencé à faire... Il a produit quelque chose à un moment donné qui s'appelait clavier bien tempéré. Donc, il divisait l'octave, donc de do à do, par exemple, en 12 parties égales. Mais avant Bach, c'était pas aussi précis que ça.
Oui, OK. Donc, ça s'est pas fait de la même façon.
Voilà.
En
donc, c'est à ça qu'il fait allusion ici. Donc, leur intonation est différente. Au 19e siècle, les Field Hollers recréèrent les sons de leur patrimoine sur des instruments occidentaux, donc tempérés, mais en les accordant faux à l'oreille occidentale. Ils altérèrent l'intonation en accentuant la tension des cordes ou en faisant glisser des os dessus. Là, ici, il fait allusion à, quand on parle du slide ou à un os. On a vu ça souvent plutôt avec ce qu'ils appelaient du bottleneck. Ils prenaient un goulot de bouteille en verre et on glisse sur les cordes. Ça fait un son de slide, un peu comme une guitare hawaïenne ou un pédal steel guitar.
Ce qu'on fait maintenant avec il y a des petits instruments maintenant pour faire ça, ils ne sont pas obligés d'utiliser.
Oui, il y a d'autres instruments pour le faire aussi. Et l'autre, ce qui parle de la tension des cordes, si on peut faire ça seulement sur des instruments à cordes, bien entendu. Sur un piano, les cordes sont fixes. Mais sur une guitare, quand on va appuyer sur une corde, on va l'étirer un peu. On va monter le ton un peu. Légèrement, mais pas tout à fait d'un demi-ton ou d'un ton. Donc, c'est à ça qu'il fait allusion ici. Donc, ces inflexions de band et
excusez-moi. Non, c'est que je viens de me rendre compte que tout à l'heure, vous avez dit bottleneck, puis je m'imaginais que les gens se prenaient une bouteille vraiment pour. Non, c'est.
Non, mais
le,
au début, c'est ce
le
qu'il
nom
faisait.
De l'instrument. OK, ils prenaient vraiment.
Au début, ils prenaient vraiment le bout d'une bouteille de je sais pas quel type d'alcool, quand le bout était assez cylindrique, ils coupaient ça. Puis ils l'utilisaient comme slide. Aujourd'hui, il y a des slides qu'on peut acheter, qui
c'est
sont
ça.
Soit
okay.
en verre ou en cuivre ou en d'autres
J'imagine
matériaux.
Que selon la matière, ça doit faire un
ouais,
bruit de slide
différent.
Puis ça doit être intéressant de jouer avec ça.
Même Pink Floyd utilise ça régulièrement. Si vous écoutez attentivement,
ouais.
quand on entend une note sur une guitare qui est vraiment glissée,
ouais, ouais.
et non pas, on passe d'un comme si on montait une échelle, là. C'est du slide.
Et ça serait emprunté au blues, dans le fond.
Oui,
donc.
Oui ça vient
ah,
de
c'est
là.
Vraiment intéressant.
L'instrument phare du blues est la guitare saturée. Encore là, en français, saturée, ça sonne drôle, mais en anglais, on dirait overdrive. Là.
OK.
On met ça à 10.
Oui, oui, oui.
Cette propension à saboter des timbres clairs est typiquement noire. Les Africains rivent des plaquettes de métal sur les cordes et insèrent des ossements dans les caisses de résonance de certains instruments qui littéralement font un bruit... Qui est écrit comme G-R-Z-Z-Z, là.
Oui, oui, oui. Bon. Qui donne des frissons juste à l'entendre.
Ça le phase son, un le... peu, on dirait, en
les,
français.
L'épellation.
Les Afro-Américains tranchèrent les comptes des premières enceintes d'amplification de guitare électrique pour imiter ces sons ataviques, ce souffle des ancêtres. Vous savez, un haut-parleur, c'est un cône, dans le fond. C'est un genre de matière assez fibreuse.
Oui, oui, oui.
Il y en a qui faisaient des incisions dedans pour qu'il vibre plus.
Ah,
pour
oui.
donner un son, justement, qui a été remplacé aujourd'hui par des effets électroniques. Qui donnent.
Donc, pas seulement dans l'instrument, mais dans l'amplification.
Donc, ça vient tout de là. Toutes ces innovations-là viennent de là. Ce procédé est aujourd'hui simulé par des circuits de distorsion amplifiés qui font aussi un son de gris. Ce son vient de la savane, pas de Salzbourg, où un violon qui râle ainsi est renvoyé chez le luthier. Donc, c'est vraiment deux écoles bien différentes.
Tout à fait.
Une anecdote veut qu'un laborantin de la BBC offrit à Jimi Hendrix de réparer son ampli.
Oh mon Dieu!
Il n'avait jamais entendu un son comme ça. Il pensait vraiment que c'était brisé. La structure lyrique du blues, le call and response avec répétition de l'affirmation avant résolution, est aussi africaine. Cette prosodie vient des griots. Les thèmes dominants, le sexe, la mort, l'abandon, aujourd'hui ce serait sex and drugs and rock and roll, mais les métaphores crues, I love the way she spread her wings, Priapic, Dust My Broom, Love Gun, ainsi que la pulsion pelvienne superposant un rythme binaire et ternaire ne sont pas, disons, très celtiques. Le rap à la Shake
c'est
That Ass a tout simplement pris le relais des B.B. King. L'écoute des African Field Recordings de l'UNESCO confirme le propos, si un étourdi osait en douter. S'y trouve l'ADN des riffs joués par Robert Johnson, John Lee Hooker et Muddy Waters, et même un proto-Voodoo Child rwandais. Robert Johnson, je pense, c'est un des premiers guitaristes de blues qui a enregistré dans les années 30, début des années 30.
Okay.
Hendrix avait du reste ajouté des percussions africaines sur sa lecture de ce classique du Delta Blues. Le jazz fut inventé par des bluesmen qui s'ennuyaient et le rock par des bluesmen qui voulaient faire danser les filles. C'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux qu'est-ce qu'il dit là parce que le blues, dans le fond, c'est sûr que ça vient de la musique des Noirs aux États-Unis, mais c'est une musique qui est assez simple. Souvent, juste deux ou trois accords, des fois seulement un, même John Lee Hooker. Puis les jazzmen ont juste complexifié ça un peu.
Ils ont
rajouté plein de choses. D'autres formes noires, le Motown, furent blanchies, le disco. Les Blancs ont peu participé aux premiers élans de cet immense apport culturel, bien que le country western offre une trajectoire plus métissée. Ils se le sont appropriés, d'Elvis à Eminem, de Peter Green à Bill Evans. Dans le fond, Elvis, quand il a débuté, il faisait le même style que Chuck Berry et compagnie,
qui étaient
noirs, eux, donc ils passaient pas aux radios blancs. Dans l'Amérique ségrégationniste, les radios dédiées aux races, aux race records, étaient écoutées clandestinement. Un blanc qui s'initiait à la musique de nègre, excusez l'expression ici, c'est écrit comme ça.
C'est l'époque.
Nos curés la désignaient ainsi, le faisaient à ses risques. Stevie Ray Vaughan raconte comment son père le battait quand il le trouvait à travailler ce répertoire.
Voyons donc.
Il restait dans le sud, faut dire.
Ben oui, c'est ça.
Aujourd'hui, le moindre stream contient une intonation, un rythme, un thème à l'origine blues. C'est dire qu'aucun white boy ne pourrait faire de la musique populaire entièrement redéfinie par la culture et le showmanship noir, par ce que Senghor nommait la négritude. Aucun activiste ne s'intéresse à mes spectacles à Limoilou. Mon passif est au millionième de celui de Keith Richards. Mais si je me contraignais par principe, correction, autocensure, à refuser cette appropriation, je ne pourrais faire de band, Ça, c'est étirer une corde pour aller atteindre un autre ton plus haut.
Mm-hmm. «
Car je suis confiné au clavier tempéré. Je ne pourrais, horreur, faire de gris, car je suis confiné au timbre clair. Je jouerais sous une nouvelle chape de plomb moral. Au final, je ne pourrais davantage jouer de musique de nègre qu'il y a 50 ans, si ce n'était que du délire. Mais non, c'est pour vrai. Ainsi le clament nos nouveaux curés. »
The thrill has gone away. Thrill is gone, baby. The thrill has gone away. You done me wrong, baby. And you're gonna be sorry someday. Thank you.
un des plus gros hits du roi du blues, The Thrill Is Gone, de B.B. King, 1970.
Ah, oh, il y a de la musique qui vieillit pas, hein?
Mm-hmm.
Ouais. Et maintenant, parlant de vieillir bon. En tant qu'humanité, est-ce que l'intelligence artificielle va signer notre fin?
Oui, c'est ça, c'est une...
Ah oui, bon, oui. C'est réglé, on n'a pas besoin de régler.
Voilà, passons tout.
Ah, dans la revue Histoire, ça m'intéresse, juillet-août 2018, c'est une entrevue avec Jean-Gabriel Ganassia, qui est un chercheur en intelligence artificielle à la Sorbonne. Il a publié en 2017 le mythe de la singularité, le titre « Le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle » aux éditions Seuil. Alors, les propos ont été recueillis par Cyrielle Lemoigne-Tolba. Donc, c'est une entrevue, donc il y a une question et la réponse. Donc, histoire, de quand datent les premières tentatives d'intelligence artificielle? Monsieur Ganassia, je remonterai au 16e siècle.
Ah, quand même!
Oui, avec le mythe du golem. Le golem, c'est une statue de glaise colossale. Est-ce que vous avez entendu parler
de
ça?
Oui, c'est dans la mythologie hébreu.
Oui, c'est ça, oui. Ce n'est pas tout à fait de l'intelligence artificielle, mais on est dans l'idée d'animer une chose pour qu'elle exécute des tâches répétitives. Alors, la tradition raconte que pour protéger la communauté juive, régulièrement victime d'exactions, le rabbin Lowe produit une statue d'argile au contour vaguement humain, un être animé par des combinaisons de lettres qu'on lui passe derrière les dents, un peu comme un ordinateur. On dit que sur son front se trouve un mot « émet », qui veut dire « vérité » en hébreu. Quand on veut arrêter le golem, il suffit d'effacer la première lettre. Cela donne un mot hébreu qui signifie « mort ». On a un bouton « on-off ».
C'est vraiment... C'est brillant, quand même.
Oui, voilà pour le mythe.
C'est quasiment dommage que ça puisse pas fonctionner pour vrai.
Ouais.
J'aimerais pas savoir un petit golem, moi, pour protéger mon... Bon.
Il faudra attendre la première moitié du 19e siècle pour que soit imaginé l'ancêtre de l'ordinateur. Un Anglais... Charles Babbage conçoit le premier ordinateur programmable. Son assistante, Alda Lovelace, élabore des programmes pour cette machine. Elle se dit qu'avec elle, elle va pouvoir faire autre chose que des calculs mathématiques et traiter des textes et de la musique. Mais les techniques de l'époque ne permettent pas de la fabriquer. Le premier ordinateur électronique voit le jour en 1946 seulement et le terme d'intelligence artificielle est introduit en 1955 par deux mathématiciens, John McCarthy et Marvin Minsky, pour désigner une discipline scientifique destinée à décomposer l'intelligence en fonctions si élémentaires qu'on pourrait les reproduire sur un ordinateur. À Historia, fichage massif via les réseaux sociaux, remplacement des travailleurs par des robots, aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait peur. La réponse? Pendant des millénaires, on a rêvé que des machines nous rendent plus libres. Mais ces rêves sont toujours assortis d'une crainte quasi ancestrale, celle que les créatures que nous forgeons, aillent à l'encontre de nos souhaits. En 1920, l'auteur tchèque Karel Čapek emploie pour la première fois le terme robot dans une pièce de théâtre. L'ingénieur Rossum invente.
Donc ça vient du tchèque.
Oui. Robot. J'en avais parlé il y a peut-être un an à peu près dans
un article. Oui, c'est ça, mais j'avais oublié.
Moi, ça m'est revenu en lisant l'article hier. L'ingénieur Rossum invente des travailleurs artificiels, des robots, du mot robota, qui signifie travail forcé en tchèque. Alors, bientôt, les robots tentent de prendre le pouvoir. Dans une perspective marxiste, la dignité de l'homme est liée à son travail. Or, à partir du moment où des machines travaillent à sa place, celui-ci perd en dignité et cède son pouvoir au robot.
C'est pas fou.
Oui. L'idée sous-jacente, c'est qu'il y a transgression quand l'homme joue au démiurge et qu'il cherche à égaler Dieu. S'ensuit alors un châtiment, pour moi, c'est une crainte injustifiée. L'intelligence artificielle ne s'oppose pas à l'intelligence humaine. Elle a notamment pour objectif de libérer l'homme et de mieux comprendre l'intelligence humaine. Histoire, mais des chercheurs de renom comme l'astrophysicien Stephen Hawking, récemment disparu, nous mettent en garde contre les dangers de la superintelligence des machines qui menaceraient l'humanité d'extinction. La réponse? Beaucoup d'auteurs de science-fiction se sont fait l'écho de cette crainte, comme le célèbre Isaac Asimov dans une œuvre « Le cycle des robots » 1950-1985. C'est assez naturel. Ce qui m'intrigue davantage, c'est tout ce cortège de chercheurs et de grands industriels, Cisco, Nokia, qui partagent cette peur. Parmi eux, Raymond Kurzweil, directeur de l'ingénierie chez Google. Il pense que la puissance de calcul des microprocesseurs sera bientôt telle que nous téléchargerons notre conscience sur des machines, ce qui nous procurera une forme d'immortalité. Bon. Il s'ensuivra une transformation brutale située, selon ses calculs, entre 2045 et l'an 2050. Quand même, c'est loin. C'est tout près en même temps.
Oui, pour survivre, c'est ça.
Pour survivre, l'humanité sera condamnée à s'hybrider avec la technologie. Nous deviendrons des cyborgs. De même, en 2000, l'informaticien Bill Joy publiait un article dans la revue Wired intitulé Wired, c'est W-I-R-E-D, Wired?
Wired.
Ben, merci, Wired.
Intitulé
Wired.
Wired.
L'intitulé Pourquoi le futur n'a pas besoin de nous? Il expliquait que des nanorobots résultant du couplage de nanotechnologie et de la robotique allaient nous anéantir. Cette vision apocalyptique fait penser aux peurs agitées en Europe au tournant de l'an 1000.
L'an 1000?
Oui, oui, il y avait la grande peur de l'an 1000. Mm-hmm. Oui, parce qu'on changeait. Comme on a eu en 2000.
Oui, oui, ouais, mais... Ouais.
Ben,
ouais.
C'est, mais c'est ça vrai, témoin, c'est vrai. Mais en 1000, les gens se cachaient. Là. Ils allaient dans les bois, ils se cachaient. C'était la grande peur. Là.
Wow.
Cette vision... des prédicateurs annonçaient alors la fin du monde. Et à mesure que la date fatidique approchait, il reculait l'apocalypse de quelques années.
Alors, un bon truc.
Ben oui, tu sais. Cette peur est infondée, selon moi. Je ne crois pas que les machines nous surpasseront un jour, tout simplement parce que l'intelligence et la conscience humaine ne se résument pas à une puissance de calcul. Et par exemple, aucune machine ne pourra produire un chef-d'œuvre littéraire. De même, on reproduit quelque chose qui donne l'illusion de l'affection, comme avec les robots sexuels récemment inventés, mais guère plus. Hein? Est-ce que j'ai encore une minute ou deux?
Non. Ben, pourrais élaborer un peu là-dessus, ouais. Ça, ça m'a échappé.
Je veux bien correct. Qu'on prenne une minute ou deux, mais Isabelle aura plus beaucoup de temps.
Bon, c'est correct. Non, c'est parfait. Okay. On arrête là.
Ben,
OK.
Ben, oui, on y reviendra peut-être. Faut-il changer le nom du Mi'kmaq Mall? C'est un article que j'ai pris sur le site de Radio-Canada, ici Nouvelle-Écosse, qui a été publié le 29 juillet 2018. À Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, le centre commercial Mi'kmaq Mall, voyons, j'ai de la misère. Attends, c'est 3M, c'est facile. Le MMM investit 55 millions de dollars dans de grandes rénovations, mais une mise à jour du nom du centre commercial, ouvert en 1973, ne fait pour l'instant pas partie des plans. Parce que là, ça s'écrit Mi'kmaq, M-I-C-M-A-C, mm-hmm. Mall. Alors, le nom du Mi'kmaq Mall n'est pas offensant pour les Autochtones, dit Alan Sillyboy de Truro, en Nouvelle-Écosse. Mais le mot Mi'kmaq est dépassé, dit-il, tout simplement parce qu'il s'agit d'une orthographe archaïque basée sur une prononciation erronée. Si la graphie Mi'kmaq se voit encore en français, en anglais, elle a cédé la place à M-I-K-M-A-Q au singulier ou M-I-K-M-A-W au pluriel, ce qui se rapproche davantage de la graphie autochtone. Et selon mes recherches, on prononcerait donc Mi'kmaq. Ben, le Q mm-hmm. final, c'est un son guttural dont on dit qu'il n'existe pas en français, là, mais on va dire Mi'kmaq. Et au singulier, U au pluriel, ce serait Mi'kmaq. Donc les Mi'kmaq sont les peuples autochtones du Mi'kma'ki. Ou Mi'kma'ki, un territoire qui s'étend des provinces de l'Atlantique à la péninsule gaspésienne et jusqu'au nord de l'État du Maine. Si on vous présente à quelqu'un et que cette personne ne dit pas votre nom comme il faut, vous la corrigerez, dit Alan Sillyboy. De ne pas expliquer à quelqu'un qu'il prononce mal votre nom rend les choses un peu inconfortables à la longue. Et c'est aussi l'avis de Rebecca Thomas, l'ancienne poète officielle d'Halifax en Nouvelle-Écosse. S'il vous plaît, prononcez notre nom correctement ou bien ne le dites pas. Madame Thomas explique la différence entre le nom du centre commercial de Dartmouth et les noms de certaines équipes sportives appelées Indians, Indiens, ou Redskins, peau rouge. Le mot Indien n'est pas une injure raciste comme peau rouge, mais c'est un mot archaïque que nous n'avons plus de raison d'utiliser car nous avons des mots plus exacts. Alan Sillyboy pense que de rectifier le nom pourrait être une bonne chose pour le centre commercial. Bon. Moi, je me dis, tant qu'à dépenser 55 millions pour rénover, on peut changer le panneau.
Oui. Ben oui.
C'est une chose facile à faire, dit-il. Le monde change. La résistance au changement, avance M. Silliboy, peut créer l'impression de ne pas évoluer en même temps que la société, ce qui n'est peut-être pas idéal pour une entreprise. Le Micmac Mall n'a aucun plan immédiat qui implique un changement de nom. Ivanhoé Cambridge, la compagnie propriétaire du centre commercial, se dit cependant ouverte à en discuter avec des groupes Micmac. Et si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus sur la prononciation de la langue Micmac, j'ai trouvé un site vraiment intéressant. Celui en anglais, je l'ai trouvé plus facile à comprendre. Là, c'est www.native languages.org. Et vous pouvez faire une recherche, mais ou sinon, vous pouvez inscrire /Micmac, M-I-K-M-A-Q, /guide.htm. Et sinon, il y a le site astrosanté.com. Je dis astrosanté, là, je ne sais pas si c'est ça le mot, mais ça s'écrit comme ça. /micmawisimk.html. micmawisimk.html. Bref, si vous mettez ça dans votre moteur de recherche, là, vous devriez réussir à tomber. Et puis c'est ça, on explique vraiment la prononciation, comment prononcer le K s'il est au milieu du mot par rapport à s'il est là à la fin. Ou quand il y a deux consonnes de suite, comment prononcer, où est-ce qu'on met une syllabe de plus? On se demande des fois, est-ce qu'on dit, par exemple, mettons, il y a ML, est-ce qu'on dit ML ou est-ce qu'on dit ML? Est-ce qu'on met on sépare?
Est-ce qu'il y a des sections audio où on peut l'entendre?
Parce que c'est ça, fois, non, ça malheureusement, c'est pour ça que je ne suis pas certaine à 100% de ma prononciation, parce que la prononciation que j'ai trouvée sur YouTube était contradictoire avec toutes les informations théoriques que j'ai trouvées en ligne. Donc, j'ai préféré me fier au site théorique qui avait l'air plus sérieux. Mais, je vous en donnerai des nouvelles si jamais j'ai plus de détails.
C'est bon. Et si jamais vous avez manqué de temps pour prendre en note les adresses web que Isabelle vous a données, vous pouvez réécouter l'émission plus tard sur Internet ou encore envoyer un courriel à canalm@visezvoix.com et on s'assurera qu'Isabelle puisse vous répondre avec les bons liens.
Et ça va me faire plaisir et ça va me permettre de me reprendre pour disons tout le temps que j'ai pris, mais de façon un peu hétéroclite. Alors, merci beaucoup pour votre patience et on vous revient après une courte pause.
Vous écoutez les voix de service.
What a drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake and she buys a frozen steak and goes running for the shelter of her mother's little helper, and to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. She took four more. What a drag it is getting old. Men just aren't the same today. I hear every mother say, they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy, you can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper, and for help you through the night, help to minimize your plight. Doctor, please, some more of these outside the door. She took four more. What a
the track, it is getting old. Life's just much too hard today. I hear every mother say the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They've just helped you on your way through your busy dying day.
C'était les Rolling Stones avec une chanson qui s'intitule « Mother's Little Helper ». Et j'aimais bien le début de cette chanson-là parce que...
Dieu, les Rolling Stones, moi j'aime ce son des Rolling Stones.
Ça c'était vraiment à leur début, là, c'est ce que 64 j'aime. Je pense, quelque chose comme ça. Puis c'est parce que la première phrase qu'il dit c'est « What a drag, it is getting old ».
Oui, puis traduit. Avec quel âge à l'époque?
Et voilà. Et là, aujourd'hui, justement, l'article que je vais vous lire, que j'ai trouvé dans Le Figaro, qui s'intitule « Mick Jagger a 75 ans, sois sympathie pour un diable du rock ».
Et pour ceux qui ne parleraient pas couramment l'anglais, « What a drag getting old », c'est quelle nuisance de devenir vieux.
Quelle plaie de vieillir, ouais, voilà, qui avait 22 ans peut-être quand
c'est
il a chanté.
C'est ça, c'est tellement dur, 22 ans. Là. Oh.
Et aujourd'hui, il a 75 ans. Le leader des Rolling Stones fête jeudi dernier, donc le 26 juillet, ses trois quarts de siècle. Le chanteur aura marqué l'histoire du rock'n'roll le long d'une carrière de 56 ans, marquée sous le signe de la philosophie « Sex, Drugs and Rock'n'Roll ». Et dire que quand on était jeune, il disait « Faites pas ça, vous allez mourir jeune », c'est pas très bon. Quoi de neuf chez Mick Jagger? Le rocker vient de clore le No Filter Tour avec ses comparses des Rolling Stones dans une tournée monumentale qui aura réuni 1,5 million de spectateurs sur 28 dates en Europe. À peine le temps de se remettre...
Il y a quand même beaucoup de monde.
Ouais, ça déplace encore beaucoup de monde. Parce que c'est devenu un peu une curiosité aussi, je pense. Et il y a aussi le fait qu'ils sont rendus qu'ils attirent des personnes de quatre générations différentes.
Effectivement, ah, c'est vrai que sur beaucoup de bucket list, hein, d'articles à cocher, voir un concert
des Rolling Stones. À peine le temps de se remettre de ses émotions, le chanteur a été aperçu dans les tribunes moscovites pour soutenir les Three Lions pendant la Coupe du monde de football, puis en boîte de nuit aux côtés de Nicole Scherzinger. Donc, il ne se repose pas souvent.
C'est qui Nicole Scherzinger?
Aucune
pour nous,
espèce d'idée. D'après la réputation de Mick Jagger, ça doit être une top modèle ou quelque chose comme ça.
C'est ce qu'on se dit, oui.
Contrairement au flegmatique Charlie Watts, qui est le batteur du groupe, qu'on imagine aisément une paire de sécateurs à la main dans le jardin de sa résidence du Devon, Mick Jagger n'est pas du genre à se mettre au vert. Lui est plutôt « live fast and... » Ça, c'est vraiment une boutade, parce que quand on était jeune, il disait « live fast and die young », mais lui, il est plutôt du genre « live fast and die old
». Oui, c'est ça. Vivez vite et mourrez jeune, mais là,
vit quand même longtemps. À 75 ans, le chanteur déborde encore d'énergie. Il suffit de le voir se tortiller dans tous les sens en concert pendant plusieurs heures pour se persuader que les années n'ont presque pas d'emprise sur lui. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Aujourd'hui, le leader des Stones n'a pas de temps à perdre.
C'est ça que ça veut dire, Pierre qui roule n'amasse pas mousse.
Oui, ça veut dire les Rolling Stones.
La signification vient d'être plus claire pour moi.
On a un exemple ici très, très flagrant.
Oui, c'est ça.
La tournée terminée, il est déjà l'heure de retourner en studio, comme il l'avait annoncé en février. Mick Jagger a longtemps été l'incarnation de la philosophie « Sex, Drugs and Rock'n'Roll », son style de danse imité par les plus grandes stars du rock, de Jim Morrison à Iggy Pop, sa consommation frénétique de drogue auxquelles font référence les chansons comme « Brown Sugar »,« Mother's Little Helper » qu'on a entendu tantôt, ou « Sister Morphine », et ses 4000 et quelques conquêtes supposées l'attestent.
Oh, mon Dieu, c'est...
Parmi elles, la chanteuse Marianne Faithfull, l'actrice Uma Thurman ou encore Carla Bruni. Mais oui, vous saviez pas ça. Hein?
Avant ou après qu'elle soit mariée avec le président?
J'espère que c'était avant. Mais je ne m'amènerai pas de ça. Aujourd'hui, arrière-grand-père, la star aura 8 enfants avec 5 femmes différentes. Le dernier en date, le fils que lui a donné sa compagne Melanie Hamrick en décembre 2016. En février dernier, Keith Richards déclarait au Wall Street Journal que Jagger devrait envisager la vasectomie. C'est pas à 75 ans, c'est une bonne idée, mais bon. Tu ne peux plus être père à ton âge. Pense à ces pauvres enfants, avait-il lancé avant de présenter ses excuses à son complice des Rolling Stones. Il n'avait pas complètement tort.
Ben, c'est ça. Il y a du tout haut, ce que peut-être d'autres pensaient tout bas.
Un enfant qui vient au monde, puis il a l'impression que c'est son grand-père qui l'élève.
Oui, puis il n'aura pas la chance de le connaître. Bien que son père soit immortel, puis il va être connu, il va avoir une connaissance de lui, mais il ne va pas avoir la présence de son père.
Ouais, ça va être différent. Ouais. La relation avec son guitariste aura sans doute été la plus fertile de la longue carrière de Jagger. 56 ans depuis cette fameuse rencontre sur le quai numéro 2 de la gare de Dartford. Ensemble, ces deux vieux briscards auront composé des classiques du rock comme I Can't Get No Satisfaction, Painted Black, Sympathy for the Devil ou Gimme Shelter. Autant d'hymnes qui sont aujourd'hui entrés au panthéon du rock. L'angélique Jagger y siège depuis des lustres. Considéré comme l'un des meilleurs frontmen de l'histoire, il a été classé 16e meilleur chanteur de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Et quand même, c'est quand même pas un chanteur à voix, on s'entend là.
Non,
c'est
effectivement.
C'est plus sa réputation de showman qui fait ça. Donc, en 2003, il a même été anobli par le prince Charles. On ne peut vraiment qu'avoir de la sympathie pour ce diable du rock'n'roll.
Oui, alors...
On vous avait coupé là, dans le plus juteux de votre article, alors on voulait en avoir peu plus.
Et d'ailleurs, mon collègue Daniel et je pense Jean-Sébastien Régis aussi avaient été intrigués parce que ça terminait en disant « De même, on peut reproduire quelque chose qui donne l'illusion de l'affection, comme avec les robots sexuels récemment inventés, mais guère plus. » Et Daniel aurait aimé qu'on ait vu.
Ben, c'est qu'on savait pas ça.
On est là-bas, mais
c'était pas.
Où est-ce qu'on peut s'en acheter? Non, c'est pas ça.
Amazon, j'ai vérifié. Non.
Un autre tantôt, je serai trouvé d'informations sur ça. Là. Mais l'article continue. L'histoire, la revue dit c'est une bonne nouvelle. Il faudra toujours des humains pour contrôler les voitures autonomes ou tomber amoureux. Vous êtes très optimiste. Il dit, vous êtes très optimiste sur l'intelligence artificielle. Et M. Ganassien répond, pas complètement. Je pense que les nouvelles technologies exposent notre monde à une menace, celle de la disparition de la démocratie. Depuis la Révolution et les théories des Lumières au 18e siècle, l'État est souverain sur un territoire donné. Il surveille les individus selon le modèle du panopticon, une théorie élaborée par le philosophe anglais Jeremy Bentham en 1791. Une haute tour centrale, placée au milieu des bâtiments d'une prison, d'un hôpital ou d'une manufacture, abrite des surveillants qui contrôlent en permanence les individus, le gouvernement. Or, aujourd'hui, la souveraineté de l'État est bousculée. Son territoire est traversé par des acteurs supra-étatiques, les GAFAM. Ah, c'est les premières lettres de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Mm-hmm. GAFAM, jamais entendu cette expression-là. Oui, OK.
Ben moi, j'avais entendu FANG dernièrement parce que je pense qu'il avait enlevé Microsoft, là.
OK. Mais lui, il parle des GAFAM.
C'était Netflix pour le N. Mm-hmm. Mais oui, on comprend là, que c'est les grosses entreprises.
Dans le même temps, chaque citoyen avec son smartphone peut surveiller son voisin, filmer les policiers, enregistrer des conversations. Alors, nous sommes passés d'une surveillance centralisée par l'État à ce que j'appelle une société de la surveillance généralisée. Or, si tout le monde voit tout le monde, on ne voit plus personne. Nous sommes obligés de nous tourner vers les moteurs de recherche et les GAFAM, qui sont capables de gérer les grosses masses de données que nous recueillons pour mettre en relation ces informations. C'est une forme de société féodale qui est en train de réapparaître. Au Moyen-Âge, une multitude de seigneurs locaux contrôlait des territoires morcelés sans tout le temps respecter l'autorité du roi. Le pouvoir était déjà très, très décentralisé et les vrais dangers sont là. Alors voilà, c'était la fin de l'article.
Et maintenant, vous allez nous parler d'un autre sujet complètement.
Picasso, Guernica 1937, toujours dans la revue Histoire, ça m'intéresse. Alors, Picasso devient un artiste engagé, un article de Manuela France. Dans l'Espagne en guerre, la ville de Guernica est rasée par les bombes. Le maestro saisit son pinceau pour dénoncer la barbarie. Vous avez déjà vu des reproductions de cette toile de Guernica?
Oui.
Magnifique. D'ailleurs, à Radio-Canada, dans les entrepôts...
J'allais vous demander de nous la décrire, là, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, mais c'est tellement impossible à décrire.
Ouais,
c'est
c'est
des personnages qui sont complètement déformés. Ouais. Puis, ça symbolise quoi, la fin de la guerre ou la souffrance causée par la guerre?
Le bombardement de Guernica. Ben, je vais vous expliquer ça.
Mais oui, c'est ça, d'un bombardement en particulier, mais c'est une métaphore pour la guerre en général, je pense.
Absolument, oui. C'est un carnage. Le 26 avril 1937, Guernica, petite ville du Pays basque espagnol, à l'heure du marché, 50 tonnes de bombes allemandes et italiennes sont lâchées sur la population, faisant 1654 morts et de nombreux blessés. Depuis 1936, l'Espagne est en proie à une guerre civile entre le camp républicain et celui du nationaliste Franco, soutenu par l'Allemagne et l'Italie. Dès le 1er mai, le maître espagnol se met au travail. Il y a urgence à dénoncer cette barbarie. Il compulse les photographies de l'événement et puise dans ses archives les images les plus violentes. La tauromachie, les crucifixions. Perché sur son escabeau, nuit et jour, il peint avec rage des fragments de corps démembrés, des femmes hurlantes sortant des flammes, un cheval éventré, une tête de taureau monstrueuse. Le 4 juin, il achève son célèbre Guernica, un cri de douleur, comme il le qualifie, un réquisitoire implacable de 8 mètres sur 3,5 mètres contre le fascisme et la guerre. Le 12 juillet 1937, le chef-d'œuvre monumental est présenté officiellement lors de l'inauguration du pavillon de la République espagnole à l'Exposition internationale des arts et techniques de Paris. Ce pavillon-là fait face à celui de l'Allemagne nazie. Imaginez-vous, à un officier allemand qui lui demande « C'est vous qui avez fait ça ?» Picasso rétorque « Non, c'est vous. »
Belle réponse.
Ouais. Un an plus tard, il prête sa toile pour éveiller les consciences et lever des fonds pour les républicains espagnols. L'œuvre voyage dans le monde entier avant de trouver refuge au Musée d'art moderne de New York, où elle doit rester tant que l'Espagne n'est pas démocratique selon la volonté de l'artiste. Si Guernica est la première et la plus célèbre des œuvres engagées de Picasso, elle est loin d'être la seule. Refusant l'art de propagande, le maestro invente un art de résistance allégorique, violent, fiévreux, à portée universelle. La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre offensif et défensif contre l'ennemi, affirme-t-il. Et quand on parle,
quand on va
dans les musées, vous avez des grandes toiles, quand on va au Louvre ou dans d'autres musées dans le monde, vous avez des toiles qui représentent des batailles, des scènes de massacre, tout ça. Et c'était le moyen à l'époque de sensibiliser les populations, de les réveiller.
Oui, effectivement.
Il n'y avait pas YouTube qui nous montrait.
Quand on dit une image vaut mille mots, là,
c'est
un peu ça qu'on veut dire.
Oui. C'est la lutte contre le franquisme qui mobilise le plus Picasso, hanté par les images de son pays martyrisé. Pour financer le combat des guérilleros, il dessine la série « Songes et mensonges » de Franco qu'il fait tirer en carte postale pour frapper plus fort que les intellectuels discoureurs, dit-il. Le peintre met aussi la main à la poche pour aider les miliciens républicains. Fin 1938, en réponse à l'appel du journal « La Voz de Madrid », il envoie 1,5 million de francs pour soutenir les familles de combattants. Picasso est en exil en France et dès son arrivée en France en 1901, à l'âge de 20 ans, il est fiché par la police pour avoir fréquenté dans sa jeunesse la bohème anarchiste de Barcelone. En 1940, sa demande de naturalisation est refusée et dans la France occupée, il doit se méfier 24 heures sur 24.
Ah,
il est régulièrement visé par la police pétainiste et surveillé de près par la Gestapo et dénoncé pour ses sympathies communistes. D'autant qu'il accueille régulièrement dans son atelier parisien des grands augustins, des personnages antifascistes et des républicains espagnols. En janvier 43, la Gestapo est chez lui. Picasso raconte « Ils m'ont insulté, ils m'ont traité de dégénéré, de communiste, de juif. Ils ont donné des coups de pied dans mes toiles. Mais le maestro espagnol n'est pas homme à baisser les armes, lui qui s'est toujours refusé à fuir la France ou à mettre son talent au service de l'occupant. »
Je pense que ça témoigne de à quel point il était déjà... important, fait qu'il ne l'ait pas justement juste arrêté, puis les Allemands, parce qu'il ne gênait pas trop. Hein,
Non.
Donc, il devait quand même être assez important pour se garder une petite gêne. Merci. Alors, voici maintenant le moment, un des moments de l'émission où je fais étalage de mon ignorance. Alors, je vais vous parler de la Sainte-Anne et je vais vous poser la question « Qui est Sainte-Anne? » Et vous avouez en toute humilité que je ne savais pas trop. Là, je l'ai peut-être déjà su, mais je l'ai oublié. Alors, j'avoue...
C'est la mère...
Ben oui, c'est la mère de la Vierge Marie.
Ben oui, ben oui.
Donc, elle est la grand-mère... de Jésus.
Oui, je le savais.
Moi, je l'ai probablement déjà appris, là, mais sérieusement, j'avais compris.
Parce qu'elle ne s'appelait pas sainte dans le temps.
Elle s'appelait juste Anne.
Anne, la confusion,
ouais.
Et voilà.
Elle ne s'appelait pas Anne, elle s'appelait juste Anne. Là, mais voilà. On a mis le saint, puis c'est devenu Sainte-Anne.
Sainte-Anne.
Alors, donc c'est ça, c'est la grand-mère de Jésus. Et dans les croyances chrétiennes, elle est la protectrice des malades et des femmes qui accouchent. Et donc, l'article dont je vais vous parler, son titre est « Les Innous et la Sainte-Anne, 300 ans de tradition ». Tradition, pardon. A été publié le 27 juillet sur le site Espace Autochtone de Radio-Canada et il est signé Gabrielle Paul. Les Innous entretiennent une dévotion pour Sainte-Anne depuis plus de 300 ans. Encore aujourd'hui, ils sont des dizaines à participer aux célébrations de la fête de la Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Beaupré, près de Québec. Parce que Sainte-Anne a sa ville, Sainte-Anne-de-Beaupré. Probablement Sainte-Anne de d'autres choses,
oui,
mais Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est la plus connue des Sainte-Anne du Québec.
Sainte-Anne de La Rochelle aussi.
C'est ça, mais pas aussi fréquentée. Impossible de savoir avec certitude ce qui les a poussés à adopter avec rigueur les rites entourant celle que certains appellent désormais la grand-mère des Innous. Aujourd'hui encore, plusieurs refusent de manquer la neuvaine et la fête de la Sainte-Anne, même s'ils doivent voyager pendant un ou deux jours pour s'y rendre. La dévotion qu'ont les Autochtones pour Sainte-Anne est exceptionnelle, selon la vice-rectrice du sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, Assunta Bouchard. Je m'édifie énormément de voir comment combien les gens des Premières Nations ont une grande dévotion à l'aïeule, à la grand-mère, à la bonne Sainte-Anne. J'ai des gens qui viennent faire leur chemin de croix tous les jours, dit-elle. Il y a un homme de 86 ans, de la Côte-Nord, qui vient se tenter, c'est-à-dire camper, chaque année avec sa famille. Et le souhait qu'il fait, c'est qu'il demande à Sainte-Anne de lui permettre de revenir l'année prochaine. Donc, il y va pouvoir revenir.
Ouais, mais... c'est comme si je soufflais les chandelles du gâteau de fête puis je fais le vœu de toutes les souffler d'un coup. C'est pas là.
Mais c'est ça. il a quand même 86 ans et c'est quelque chose qui le tient en vie probablement.
Donc,
et,
c'est ça. Lui,
positif.
Il fait
c'est quelque chose de positif
de vivre
dans
plus
sa
longtemps,
vie.
Finalement.
Il y a un petit encadré ici. En Innu, juillet se dit « Chétan Pichin », qui se traduit par « le mois de la Sainte-Anne ».
Ah!
Alors, ça, c'est la fin de petit encadré. Certaines communautés organisent leur propre célébration de la Sainte-Anne pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est notamment le cas d'Equanichit, qu'on connaît sous le nom de Bingan. Madame Bouchard se réjouit de cette initiative. « Sainte-Anne rayonne à l'extérieur ». La famille Ishpatao de Natashquan a tenu à faire le voyage cette année. Mélissa, Maxime et leur fils Mathéo sont arrivés pour la messe du 26 juillet. « On ne vient pas chaque année, » dit Mélissa Ishpatao. « On voulait prier un peu, » renchérit son conjoint. Les célébrations de la Sainte-Anne font aussi partie des traditions familiales. Les adolescents viennent, mais ils sont adolescents, et c'est correct. On voit par contre plus tard, quand ils sont mariés et ont des enfants, la tradition a été semée et ils continuent de venir, constate Assunta Bouchard. La messe en langue Innu est un moment de recueillement particulier pour les Innus, mais elle est tout de même ouverte à tous. C'est leur messe à eux. Nous avons une messe pour les Italiens aussi, donc chacun a sa part d'église. Paul Arthur McKenzie chante pendant la messe en Innu depuis près de 20 ans. L'octogénaire s'exprime en Innu. C'est son amie Aline Rock de Pessamit, également fervente de Sainte-Anne, qui traduit pour lui. Lorsque M. McKenzie était enfant, la Sainte-Anne était très importante. Tout le mois de juillet, c'est la fête de la Sainte-Anne. Avec ses parents, il fêtait toujours la neuvaine. Avant, quand il vivait dans le bois, avec le mode de vie traditionnel, il n'y avait pas de médecin, d'infirmière ou de prêtre. La seule qui pouvait les protéger, c'était Sainte-Anne. Paul Arthur McKenzie se réjouit de la facilité qu'il a aujourd'hui pour se rendre jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré. Quand il était jeune, sa famille partait en canot de la Basse-Côte-Nord et descendait le fleuve pour la Sainte-Anne, traduit Mme Rock. Ça prenait une semaine faire le voyage, mais ça ne les dérangeait pas, leur foi était forte. André Paul de Pessamit est une aide bénévole pour la basilique Sainte-Anne depuis 25 ans. « Ma grande vocation pour Sainte-Anne a commencé étant jeune. Mon éducation était tournée toujours vers la religion. » La première fois que je suis arrivée ici, j'avais 12 ans et je suis toujours revenue. Pour celle qui travaille comme infirmière, être aide pendant la neuvaine lui permet de se ressourcer. Quand je viens ici, c'est comme mes vacances. Des gens de partout se rassemblent ici, il n'y a pas de différence. Je crois avant tout en l'être humain. Et être ici me permet de partager avec les gens. Moi, ça me donne des frissons de lire des choses comme ça. J'aime ça. J'aime les événements rassembleurs comme ça, même si moi, je ne m'identifie pas à la religion, mais je comprends à quel point ça a un pouvoir rassembleur. La fête de Sainte-Anne représente le partage et l'entraide, nous dit André-Paul. Madame Paul a déjà subi une paralysie au côté droit de son corps à cause d'une hernie cervicale. Comme j'ai une grande, grande dévotion pour Sainte-Anne, j'ai fait appel à elle. Je suis sortie de l'hôpital le 26 juillet, puis j'ai retrouvé toutes mes facultés physiques. Je vais toujours continuer à venir ici pour travailler pour Sainte-Anne. C'est ma grande vocation et je le témoigne à qui veut l'entendre. Je suis fière, conclut-elle. Serge, une petite brève.
Oui. Isabelle, moi, c'est un produit que je n'utilise pas. Daniel, non. Enfin, je pense pas que Daniel l'utilise ou Jean-Sébastien. La marque Maybelline.
Ben moi, je me maquille pas vraiment, mais je connais la. Je me rappelle de la pub. Maybelline.
Alors, il faut remonter en 1914 à Chicago. La jeune Mabel Williams échappe de justesse à l'incendie de sa gazière. Sa cuisinière au gaz. Oui, il y a plus de peur que de mal, mais cet accident domestique lui laisse en souvenir des cils et des sourcils partiellement brûlés.
Ah non!
C'est triste, oui.
Mais oui.
Coquette, comme toutes ces dames.
Oui, ben
oui. Coquette, elle masque cette imperfection avec un mélange de cendres et de gelée de pétrole. Son frère est chimiste, Thomas Lille, et il est impressionné et surtout inspiré. Il stabilise la recette avec de la vaseline et de la poussière de charbon. En hommage à sa sœur, il commence à vendre son mascara sous le nom de Mabel Laboratories avant de transformer sa marque en Maybelline.
Mais c'est donc même une belle histoire, ben oui, ça, parce que c'est vraiment... Quand on dit la nécessité est mère de l'invention,
ben oui.
Vraiment une belle histoire.
C'est comme ça, ça se passe.
Merci beaucoup. Daniel?
Oui, un article que j'ai trouvé dans Le Figaro aussi qui parle de Yoko Ono. Vous vous souvenez de Yoko Ono?
Oui.
J'imagine.
Oui, une autre qui doit bien avoir un quart de siècle.
Un peu plus. Oh. J'ai été surpris un peu. 85 ans.
Ah, quand même!
Il paraît qu'elle n'est pas très bien, je pense.
Mais
là, 85 ans, on est content d'être vivant, d'habitude.
Voyez-vous,
des fois, on n'est pas content, en fait.
À 85 ans, Yoko Ono sort un nouvel album pour promouvoir la paix. La veuve de John Lennon a annoncé un nouveau disque pour l'automne, dans lequel elle donnera notamment une nouvelle interprétation du titre culte Imagine. L'artiste de 85 ans a estimé que son combat d'une vie pour la paix était plus que d'actualité en 2018. Warzone sera disponible dès le 19 octobre prochain. L'album produit par son fils, Sean Ono Lennon, revisitera les chansons écrites par Yoko Ono depuis les années 1970. Le morceau culte Imagine, on se souvient, qu'on en avait déjà parlé. Au début, c'était mentionné que c'était seulement John Lennon qui l'avait écrite,
mais c'était une collaboration. On reconnaît
sa participation. Donc, le morceau culte Imagine, l'hymne pour la paix qu'elle a chanté pour la première fois avec son mari John Lennon en 1971, clôturera le disque.
Bien, j'en profite pour saluer tous les octogénaires et nonagénaires qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a au moins quelques-uns. Serge?
Oui. La voiture électrique.
Oui.
En novembre 1881, l'ingénieur français Gustave-Pierre Trouvé, un beau nom, présente à Paris le tout premier véhicule électrique. Sur un tricycle, il a installé deux moteurs alimentés par 6 accumulateurs au plomb. Belle trouvaille. Sauf qu'à l'époque, les batteries électriques au plomb pèsent presque une demi-tonne. Il faut donc...
Ça
prend beaucoup d'énergie pour faire...
Juste pour le déplacer, c'est ça.
Il faut donc alléger tout ça. 20 ans plus tard, le fabricant de carrosses viennois Jacob Lohner embauche un jeune ingénieur pour régler ce problème, Ferdinand Porsche.
Ah, on connaît très bien.
Ah, ce nom-là me dit quelque chose.
Il propose d'équiper les véhicules d'un groupe électrogène capable, grâce au mouvement des roues, de recharger en permanence une batterie beaucoup plus légère. Eureka! En 1920, une voiture sur trois vendue dans le monde est électrique.
Ah oui, ça a bien changé.
On a oublié ça. Hein?
C'est le lobby des producteurs de pétrole qui ont tué ça.
En conclusion, on nous dit, mais très vite, les efforts de l'Américain Henry Ford rendent le moteur à essence meilleur marché et renvoient l'électrique au garage. Puis il reste encore un petit peu, une minute.
Une petite dernière.
La première fois qu'on a eu un jouet, c'était il y a 5000 ans. dans l'ancienne ville de Sog Matar, dans le sud-est de la Turquie. Comment est-ce qu'on le sait? C'est des chercheurs de l'Université Atatürk qui ont trouvé dans des tombes datant du début de l'âge de bronze des objets miniatures en terme cuite. Et rien d'étonnant, les modèles réduits d'objets du quotidien étaient censés accompagner les défunts dans leur voyage dans l'au-delà.
Oui.
Mais les tombes qu'on a trouvées étaient celles d'enfants, des dignitaires de la cité. Ah. Les experts ont notamment trouvé une petite calèche à quatre roues, un hocher bourré en motif d'oiseau. On enterrait les gens avec leurs objets. Ouais. Mm-hmm.
5000 ans, donc, le premier jouet. Et c'est pas fini. Merci beaucoup, Serge. Merci, Jean-Sébastien, La Liberté à la mise en onde, aux choix musicaux, Daniel Lachance.
Merci.
Merci, Serge Bradet. Et moi-même, Isabelle Falardeau, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut.
D'accord.